Bien. Nous allons pouvoir reprendre, s'il vous plaît. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé à la veille, si j'ose dire, de la visite de Bill Clinton, visite qui a été négociée minutieusement dans tous ses détails, parce que tout peut prendre une signification politique. Ainsi, au lieu d'atterrir à Gaza, le président américain sera d'abord accueilli en Israël, puis ira à Jérusalem, et puis de là, à Gaza, en hélicoptère, parce qu'il ne faut pas que l'avion présidentiel américain atterrisse à l'aéroport de Gaza, parce que ce serait un signe de souveraineté palestinienne si il le faisait. Donc, Clinton, avec sa famille, c'est-à-dire sa femme et sa fille, arrive le samedi 12 décembre 1998 à l'aéroport Ben-Gurion de Tel Aviv et déclare à son arrivée à l'aéroport que la paix est la seule solution permettant d'éviter de nouvelles années de bains de sang, d'angoisse et de chagrin. La paix n'est pas une option, c'est le seul choix capable d'éviter de nouvelles années de bains de sang, dit-il. La réponse de Netanyahou est une série d'accusations contre Arafat. Attendez, je fais une correction. Qui n'aurait pas rempli ses engagements. Le dimanche 13 décembre à Jérusalem tend à être une compétition entre deux grands maîtres de la communication politique, mais la presse internationale est surtout préoccupée par la question de l'éventuelle destitution du président. La conférence de presse commune est une amplification des allocutions de la veille. Clinton confirme l'octroi de 1 milliard 200 millions de dollars à Israël pour financer l'application des accords de Wye. En privé, Netanyahou a confirmé à son interlocuteur qu'il ne doit pas s'attendre à un second redéploiement pour la date prévue du 18 décembre. Les deux responsables politiques s'adressent à des étudiants et on présente au président des enfants dont les parents ont été victimes d'attentats palestiniens. Le lundi 14 décembre, Clinton arrive à l'aéroport de Gaza dans un hélicoptère de la marine américaine, pour les raisons que je vous ai indiquées. Après les allocutions d'usage et l'inauguration officielle de l'aéroport par le président des États-Unis, on travaille en petit comité à mettre au point les ultimes détails jugés particulièrement essentiels. Le Conseil national palestinien votera à main levée l'approbation de l'annulation des clauses de la charte. Le président rencontre des enfants dont les parents sont dans les prisons israéliennes. Ça fait partie, pardon, du rituel moderne. Tout se passe comme prévu. L'Assemblée vote comme on lui a demandé, puis Arafat fait un discours qui renouvelle son engagement pour la paix. Clinton déploie son art oratoire. Il se présente comme un ami du peuple palestinien, annonce un futur adieu pour la bande de Gaza et reconnaît les souffrances des Palestiniens. Il s'adresse à la fois aux uns et aux autres pour marquer que les Israéliens ont le droit de vivre en sécurité et les Palestiniens en liberté. Il les adjure de travailler à une réconciliation mutuelle qui leur profitera bien plus que toute violence. Il met sur le même plan les enfants israéliens et palestiniens qu'il a eu l'occasion de rencontrer. Il a élargi ensuite sa perspective. Aucun tort ne peut justifier l'assassinat d'innocents. On a profondément tort d'identifier les Palestiniens, en particulier l'islam en général, avec le terrorisme, ou de voir un conflit fondamental entre l'islam et l'Occident. Pour la vaste majorité de plus d'un milliard de musulmans dans le monde, la tolérance est un article de foi, le terrorisme une trahison de la foi. S'il évoque les griefs des Palestiniens, il ne les détaille pas. Il faut abandonner les rhétoriques de la haine. La question de la colonisation est à peine mentionnée et plus comme sujet de négociation. Il évite toute mention du droit des Palestiniens à l'autodétermination, synonyme d'État palestinien. Netanyahou est obligé de reconnaître que les Palestiniens ont respecté leurs engagements, mais il exige encore plus. Après tout, ce succès ne s'explique-t-il pas par les pressions exercées sur eux ? La question est de savoir si on peut maintenant tenir un sommet tripartite à Eretz. Ross en est partisan, à condition que les Israéliens fassent une avancée dans le dossier des prisonniers. Mais les premiers ministres israéliens s'y refusent, sa majorité parlementaire ne l'accepterait pas. Clinton veut absolument cette réunion. Il a besoin d'un succès tangible à un moment où il est perpétuellement sur la défensive du fait de la menace de destitution et où il redevient inévitable d'exercer des frappes sur l'Irak en raison de la nouvelle impasse dans le dossier des inspecteurs de l'INSCOM. Donc, finalement, un sommet est fixé pour le lendemain matin à Eretz. À l'arrivée des participants, Sharon refuse de serrer la main d'Arafat, ce qui jette un froid. Ensuite, Netanyahou récite toute la liste supposée des manquements des Palestiniens aux accords. Les intéressés répondent sur le même ton. Il est clair qu'il est impossible de progresser. Les Américains, diplomatiquement, proposent de renvoyer ces questions à une commission mixte chargée de les résoudre. Le président se rend ensuite avec Arafat à Bethléem, puis à Masada avec Netanyahou. Si les Palestiniens ont remporté un certain succès en termes de reconnaissance, le voyage présidentiel peut être largement considéré comme un échec, puisque l'application de l'accord de Wai est toujours gelée. Immédiatement après le départ de Bill Clinton, qui doit faire face au vote sur sa destitution à la Chambre des représentants et à la crise irakienne, Netanyahou propose un vote de confiance sur sa politique, c'est-à-dire le gel de l'application des accords. Il anticipe ainsi une manœuvre de ses adversaires et cherche à tomber à droite, comme on dit, en langage parlementaire. Ça, c'est un missile Tomahawk lancé d'un navire de guerre américain durant la quatrième vague d'attaques sur l'Irak lors de l'opération Renard du désert, le 19 décembre 1998. Le 16 décembre, les forces américaines et britanniques lancent une série de frappes contre l'Irak. C'est l'opération Renard du désert, Desert Fox, qui dure jusqu'au 19 décembre. L'opinion publique internationale est plutôt réservée. Dans le monde arabe, les réactions sont nettement hostiles. L'opération relance des manifestations de rue dans les territoires palestiniens qui avaient été seulement calmées par la visite de Clinton. Les manifestants exigent de Bill Clinton qu'il arrête, entre guillemets, la guerre de Monica. Les heurts sont violents avec l'armée israélienne. La police palestinienne tente de limiter au maximum la couverture des événements donnés par la presse internationale. De façon générale, Renard du désert efface dans l'opinion publique arabe les effets positifs de la visite de Clinton à Gaza et suscite une nouvelle vague d'anti-américanisme. Bill Clinton a beau adresser ses vœux aux musulmans pour le début du mois de Ramadan, ce n'a fait que renforcer la colère populaire. Contrairement au début des années 1990, où CNN était la principale source d'information, c'est maintenant Al Jazeera qui est regardé massivement et qui fournit les images au monde. Elle fournit une couverture pratiquement permanente, alternant images, reportages et débats. Saddam Hussein s'en sert pour appeler les masses arabes à combattre contre les États-Unis, briser l'embargo et secouer le joug de le gouvernement. Les diffusions des comptes rendus des manifestations populaires dans divers pays arabes a un puissant effet mobilisateur. Comme je le dis toujours, les historiens sont très bons pour prédire le passé, c'est-à-dire identifier les signes annonciateurs des faits une fois qu'ils se sont produits. Et donc, on voit déjà, dans la fin des années 90, avec la montée en puissance des télévisions satellitaires arabes et la diffusion nouvelle de l'information, les premiers signes qui vont conduire au printemps arabe de 2011, étant donné que ça annonce une nouvelle socialisation et un nouvel mode d'information dans le monde arabe. Et dans ce domaine-là, Al Jazeera a joué un rôle absolument essentiel. Et là, Desert Fox est très intéressant parce que c'est là on a pour la première fois une série de manifestations non pas coordonnées, mais en liaison avec les émissions de Jazeera dans plusieurs pays arabes à la fois. Le 21 décembre, Netanyahou ne peut empêcher le dépôt d'un projet de loi appelant aux élections anticipées. En première lecture, il recueille 81 voix contre 30 et 4 abstentions. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a intensifié ses opérations au Liban. Le 22 décembre, un bombardement aérien tue une mère et ses 6 enfants. Israël adresse ses excuses et évoque un mauvais fonctionnement d'un missile. Le Hezbollah réplique par une volée de roquettes sur la Galilée, faisant selon l'armée israélienne 13 blessés légers. Netanyahou menace d'exercer des représailles, n'admettant pas l'équivalence entre des morts accidentelles et une volonté délibérée de tuer. Je vous avais dit, ce n'est pas la question de savoir s'il n'y a pas toujours des risques à partir du moment où on tire. Il n'y a de dégâts collatéraux que parce qu'on utilise la force. Le 4 janvier 1999, la Knesset, par 85 voix contre 27 et une abstention, confirme sa dissolution. Les élections sont fixées au 17 mai et tout le processus de White River est suspendu. Les dates n'ont pas été choisies au hasard. C'est juste après le jour supposé, le 4 mai 1999, où Arafat éventuellement proclamera l'État de Palestine. À l'intérieur du Likoud, Netanyahou se trouve contesté par plusieurs de ses rivaux. Moshe Arendt quitte sa retraite politique pour poser sa candidature à la direction du parti. Avigdor Lieberman, l'ancien chef de cabinet de Netanyahou, fonde le parti d'extrême droite Israël Beitenu, dont l'audience se recrute chez les immigrants russes. Il se pose en adversaire résolu des élites au pouvoir. L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Amnon Lipkin-Shaak, forme de son côté un parti centriste résolu à soutenir le processus de paix. Le 23 janvier 1999, le ministre de la Défense, Yitzhak Mordechai, est renvoyé du gouvernement. Il était connu pour ses positions plutôt colombes et son hostilité au gel du processus de paix. Il traite le premier ministre de menteur, ce qui manque d'originalité, l'intéressé le qualifiant publiquement de traître. Plusieurs dissidents du Likoud le rejoignent pour former un parti centriste qui fusionne avec celui de Lipkin-Shaak, qui lui cède la première place. La nouvelle force politique semble promise, selon les sondages, un grand succès électoral. Le fait que Mordechai soit un séfarade issu d'un milieu modeste joue certainement, d'autant plus qu'il se montre respectueux des religieux. Netanyahou remporte facilement les élections primaires au sein du Likoud par 81,7% des voix et propose à Arendt le poste de ministre de la Défense. Ce dernier accepte. Si le Likoud a maintenu son unité, il a perdu tous ses éléments colombes. Ariel Sharon se déclare partisan de la création d'un État palestinien par la négociation qui se trouvera totalement enclavée puisque, en fait, ce que Sharon considère comme solution définitive, c'est la totalité des territoires cédé aux Palestiniens lors de White River, c'est-à-dire au maximum 30 à 40% de la Cisjordanie. Il s'agira d'un territoire démilitarisé à souveraineté limitée dont Israël contrôlera les accès et l'espace aérien. Le chef du Parti travailliste, Ehud Barak, multiplie les déclarations promettant une amélioration conséquente des conditions matérielles des Israéliens. Il cherche à gagner le vote des constituants de la société traditionnellement hostile aux travaillistes, les juifs originaires des pays arabes et de Russie, ainsi que les religieux qui constituent les groupes sociaux aux revenus les plus modestes. Il reste très ambigu sur ses positions concernant le processus de paix, allant jusqu'à accuser Netanyahou de favoriser la création d'un État palestinien. Il prend ses distances envers Peres, qui s'est fait l'avocat de la création d'un État palestinien au contour indéfini. Il se pose en successeur légitime de Rabin, garant de la poursuite du processus de paix et de la sécurité d'Israël. Ainsi, la campagne électorale semble devoir tourner en compétition entre trois forces politiques, gauche, centre et droite, et la question du processus de paix apparaît comme le premier dossier. Comme on est dans un scrutin proportionnel, la première étape est constituée par les désignations des places sur la liste de chaque parti. Les religieux manifestent leur force par une imposante manifestation de masse, alors que les trois blocs en compétition sont divisés sur l'attitude à tenir devant leurs revendications souvent très matérielles. Au-delà, c'est comme toujours la question de la définition de la nature de l'État et de la société qui est posée. Barak tente une ouverture vers les juifs séfarades en ouvrant trois places gagnantes au Guécher de David Levy, qui occupera le numéro 3 de la liste après Barak et Peres. L'universitaire Shlomo Ben-Ami, qui a déjà eu une carrière diplomatique et qui est un exemple de promotion sociale séfarade, reçoit le numéro 4 de la liste travailliste. Une ouverture de même genre est faite en direction des religieux orthodoxes modérés. Après son intervention à White River, le roi Hussein a repris ses soins médicaux. La détérioration des conditions de santé ouvre la question de la succession. Depuis 34 ans, son frère Hassan exerce la charge du prince héritier et de régent en l'absence de son frère. Ce choix avait été dicté par le fait qu'à l'époque, le fils aîné de Hussein, Abdallah, était encore dans l'enfance. On ne pouvait le prendre comme prince héritier, ce qu'il avait été brièvement à sa naissance, du fait des circonstances troublées dans lesquelles vivait le royaume. Normalement, après le règne de Hassan, un fils de Hussein devrait accéder au trône, mais le roi mourant ne peut être assuré que ce sera le cas. Son entourage aux États-Unis est vivement opposé à la succession par Hassan, en particulier la reine Nour, qui souhaiterait voir un de ses propres fils devenir roi. Mais son aîné, Hamzé, n'a que 19 ans, tandis qu'Abdallah en a 37. Général dans l'armée jordanienne, Abdallah dispose d'un vaste réseau de connaissances internationales. Plus important encore, il dispose du soutien de l'armée et des services de sécurité. Profitant d'une rémission, le roi rentre dans son royaume le 19 janvier 1900. 99. Il reçoit un accueil populaire sans précédent. Dès le lendemain, il laisse entendre qu'il va modifier l'ordre de succession. Après avoir rencontré son frère, Hassan s'incline. Le 25 janvier, Abdallah est rétabli dans ses fonctions de prince héritier. Là, c'est, vous voyez, donc Hussein avec son frère Hassan, transmettant en quelque sorte la fonction de prince héritier à Abdallah. Donc, Abdallah rétabli dans ses fonctions de prince héritier. C'est un point juridique intéressant parce que, comme Abdallah avait été quelques mois dans sa prime enfance prince héritier, il n'est que rétabli dans la fonction, ce qui implique qu'on n'a pas besoin d'un vote du Parlement jordanien. L'ensemble de la famille apporte son soutien à la décision. C'est la, ce qu'on appelle en arabe une bayra, une allégeance. Donc Abdallah reçoit l'allégeance de la famille pour la succession. Comme dans les deux successions précédentes de la monarchie hachémite, l'ordre de la primogéniture l'a emporté. Ça, ça a été toujours le problème des dynasties arabes médiévales et modernes. C'était le problème de la succession, puisque le droit musulman ne comporte pas de primogéniture, comme le droit français, etc. C'est-à-dire la primogéniture, la succession par les aînés. Et donc, depuis le XIXe siècle, dans les monarchies arabes en formation, s'est imposé de plus en plus la primogéniture sans qu'elle soit consacrée par les textes. Mais là, donc, de fait, depuis la fondation de la monarchie hachémite de Jordanie, la primogéniture a été exercée, fait que l'on peut penser aujourd'hui que elle s'est installée comme règle coutumière. Alors certes, Hamzé a été provisoirement désigné comme prince héritier, mais dès que le fils aîné d'Abdallah a atteint un âge de 18-19 ans, il a été immédiatement repris la fonction de prince héritier. Donc aujourd'hui, l'ordre de succession en Jordanie est bien la primogéniture. Le 26 janvier, le roi épuisé doit retourner aux États-Unis pour un traitement de la dernière chance. Le 4 février, les médecins considèrent que c'est fini. Il est rapatrié, pratiquement inconscient, en Jordanie et meurt le 7 février 1999, entouré des siens. Il était âgé de 63 ans et a régné 47 ans. L'essentiel de la population jordanienne n'a connu que lui comme souverain. Les funérailles du 7 février sont particulièrement imposantes. Des chefs d'État du monde entier y participent, dont trois présidents des États-Unis, Ford, Bush et Clinton. Ses anciens adversaires comme Arafat et Assad sont là, ainsi que le président israélien Ezer Weizmann. Le président Clinton salue l'homme de la paix. L'émotion est sincère en Israël, où l'on évoque la disparition d'un grand ami. Le fait que le président Weizmann a serré la main de Naïef Awatmé, le chef du FDLP, provoque un certain émoi en Israël, moins que le fait que Sharon refuse toujours de saluer Arafat. Dans les jours qui suivent, le nouveau souverain hachémite marque son intention de poursuivre la politique de son père en ce qui concerne Israël et le processus de paix. Contrairement à Hussein, il n'a pas d'attachement à une revendication sur la Cisjordanie et oriente sa politique vers le mot d'ordre « la Jordanie d'abord », tout en jouant sur le clivage entre Transjordaniens de souche et Palestiniens d'origine dans la population de son royaume. Comme son père, il craint une solution jordanienne de la question palestinienne qui ferait de son royaume l'unique État palestinien, thèse régulièrement reprise dans certains milieux de la droite israélienne. Il en est de même pour l'idée d'une fédération jordano-palestinienne reprise par Arafat le 12 février. À la mi-février 1999, Clinton est acquitté dans le procès de destitution au Sénat est maintenant libéré de cette lourde charge. La politique américaine est de toujours dissuader les Palestiniens de proclamer unilatéralement leur État. Les Européens, plus favorables en général aux droits des Palestiniens, suivent quand même cette position. De toute façon, la direction palestinienne compte avant tout sur la possibilité d'une victoire des travaillistes aux élections, et donc il ne faut rien faire qui puisse la compromettre. Arafat fait seulement monter les enchères pour montrer ensuite les vertus de sa retenue. Mais dans l'immédiat, les États-Unis sont de plus en plus concernés par la crise qui se développe au Kosovo. Après le lâchage forcé du PKK par la Syrie en raison des menaces turques, son leader Abdallah Öcalan est passé de façon clandestine de pays en pays, soumis à leur tour aux pressions d'Ankara. Finalement, il est enlevé au Kenya par un commando turc et transféré en Turquie. Les militants kurdes lancent une campagne internationale de protestation. Ces manifestations sont violentes et s'accompagnent en Europe d'actes d'immolation par le feu. Le PKK accuse Israël d'avoir participé à la traque de Jalan, ce que l'État hébreu dément. Des mesures de sécurité sont prises pour protéger les représentations diplomatiques. Le 17 février, des militants du PKK tentent d'occuper le consulat israélien de Berlin. Trois d'entre eux sont tués et 15 blessés par les gardes israéliens. Netanyahou invoque la légitime défense et dément toute participation israélienne dans la lutte contre les indépendantistes kurdes de Turquie. En Israël, on s'interroge sur les limites de l'alliance avec la Turquie, qui induit des mauvaises relations avec la Grèce, Chypre et les Kurdes. Au Liban Sud, pour des raisons de sécurité, l'armée israélienne élargit le périmètre de la zone occupée en y annexant le village d'Arnoun, qui se trouve encerclé de barbelés. Sous pression américaine, le gouvernement libanais suspend son recours au Conseil de sécurité. Le 23 février, l'armée israélienne perd 3 hommes dans une embuscade montée par le Hezbollah à l'extérieur de la zone de sécurité où une unité d'élite israélienne faisait une incursion. L'aviation israélienne fait des raids de représailles contre des positions supposées être sous le contrôle du Hezbollah. La question du Liban Sud revient dans la campagne électorale israélienne. La tactique de la plus grande mobilité vient de montrer ses limites. L'armée israélienne est toujours hostile à un retrait unilatéral qui exposerait encore plus le sud d'Israël. Ehud Barak évoque la possibilité d'un retrait unilatéral sans évoquer les modalités. Le 26 février 2000 étudiants, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus d'écriture. Le 26 février 1999, 2000 étudiants libanais démantèlent les barbelés entourant Arnoun. L'armée israélienne laisse faire. La population libanaise exulte. Le premier ministre libanais se rend sur place, mais quelques jours après, la LS fera une incursion dans le village pour dynamiter quelques maisons. Le 28 février, c'est un général israélien qui est à son tour tué au Liban Sud. 3 autres Israéliens perdent avec lui la vie. Des frappes de représailles sont immédiatement engagées, ce qui amène le Hezbollah à répliquer par des tirs sur la Galilée. Sharon propose un gouvernement d'union nationale chargé de tirer l'armée israélienne du bourbier libanais et le report des élections. Cette idée est immédiatement rejetée par Netanyahou et Barak. Mais ce dernier, cette fois, s'engage à retirer les troupes israéliennes dans les 15 mois qui suivront les élections. Je vous promets que si nous formons le prochain gouvernement, en juin 2000, nous serons sortis du Liban avec des garanties de sécurité et des discussions avancées avec les Syriens. Fin de citation. Quant à Arendt, il est partisan de dénoncer l'accord de 1996 instaurant le groupe de surveillance, ce qui permettrait à l'armée israélienne de retrouver sa liberté et de frapper l'ensemble des territoires libanais, ne permettant plus aux terroristes de se cacher au milieu des populations innocentes. Avec lucidité, il souligne que seule la Syrie peut garantir la sécurité du nord d'Israël et que le prix à payer, inacceptable pour lui, est l'abandon du Golan. La question diplomatique reste celle de l'application de la résolution 425. Elle n'implique pas des négociations préalables. Le gouvernement libanais reste ferme sur cette position et propose qu'une fois le retrait israélien effectué, la commission d'armistice de 1949 reprenne ses travaux. Or, Israël, en 1967, a dénoncé toutes les conventions d'armistice, y compris celles avec le Liban. En plus, pour Israël, toutes ces commissions d'armistice avaient un fonctionnement défectueux parce qu'elles étaient tripartites. Elles étaient composées d'Israéliens, de l'autre pays et de serviteurs de l'ONU. Comme chacun des deux parties se plaignait, c'était le vote du représentant de l'ONU qui tranchait. Et dans la majorité des cas, dans les années 50, le représentant de l'ONU votait plutôt du côté arabe que du côté israélien. Donc c'est pour ça aussi qu'Israël ne veut pas la résurrection de la commission d'armistice. À Gaza, le 10 mars, un tribunal palestinien condamne à mort un membre du Hamas qui a tué un officier membre de service de sécurité. L'affaire provoque une émeute dans laquelle deux adolescents sont tués par des tirs de la police palestinienne. Dans ce dossier, l'appartenance de la victime et celle de son assassin à deux clans différents de la bande de Gaza pèsent lourdement. Les violences durent plusieurs jours et font de nombreux blessés. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de politique, hein, il s'agit de vendetta entre des clans qui peuvent comporter plusieurs centaines de membres dans la bande de Gaza. À la suite d'une note israélienne rappelant qu'il est interdit aux diplomates européens de se rendre à Orient House, à Jérusalem, l'Union européenne répond que le statut juridique de la ville sainte est toujours régi par la notion de corpus separatum votée par l'ONU en 1947 et 1950. Israël réplique en affirmant que ces résolutions n'ont aucune portée juridique. Et une réunion du gouvernement israélien rappelle formellement cette opposition. Évidemment, nous sommes aussi en campagne électorale. Le 11 mars, le Sénat des États-Unis passe par 98 voix contre une résolution appelant le président à s'opposer à une déclaration unilatérale d'indépendance des Palestiniens. La Chambre des représentants suit par 380 voix contre 24. On s'inquiète de l'attitude de l'administration Clinton qui multiplie les contacts avec les Palestiniens alors qu'elle s'abstient d'en avoir avec les Israéliens sous prétexte de se tenir neutre dans la campagne électorale israélienne. Les responsables américains font clairement entendre qu'une fois le nouveau gouvernement israélien formé, on devra passer rapidement au règlement final du processus de paix, d'autant plus que les 5 ans de la période intérimaire se sont écoulés. Netanyahou affirme que c'est son intention et qu'il se montrera très ferme et que grâce à lui, les Palestiniens ont bien compris qu'ils devraient limiter leurs aspirations territoriales. Arafat, lui, continue ses tournées internationales pour engranger le plus possible de soutien. Les interlocuteurs occidentaux l'implorent de différer la proclamation de l'État palestinien et sont prêts ainsi à faire un certain nombre de déclarations, de concessions. Le plus important est la déclaration du sommet européen de Berlin le 26 mars 1999, qui me paraît fondamentale et qu'on oublie toujours. Je cite « L'Union européenne, 1. Réaffirme son soutien à une solution négociée reflétant les principes de l'échange des territoires contre la paix et assurant la sécurité collective et individuelle des peuples israéliens et palestiniens. Salue dans ce contexte la décision du Conseil national palestinien annulant la disposition de la charte qui appelait à la destruction d'Israël et réaffirmant l'engagement de reconnaître et de vivre en paix avec Israël. 2. Appelle les parties à réaffirmer leurs engagements envers les principes de base établis dans le cadre de Madrid, d'Oslo et des accords suivants. 3. Appelle en particulier à une reprise prompte des négociations sur le statut final dans les mois qui viennent sur une base accélérée qui devrait être menée à une conclusion rapide et ne devrait en particulier pas être prolongée indéfiniment. 4. Presse les parties de s'abstenir d'activités qui préjugent le résultat de ces négociations sur le statut final et de toute activité contraire au droit international, y compris toute activité de colonisation, et de combattre la provocation et la violence. 5. Réaffirme le droit permanent et sans restriction des Palestiniens à l'autodétermination, incluant l'option d'un État, souhaite l'accomplissement prompt de ce droit, appelle les parties à s'efforcer de bonne foi à une solution négociée sur la base des accords existants, sans préjudice de ce droit qui n'est soumis à aucun veto. Exprime sa conviction que la création d'un État palestinien démocratique, viable et pacifique sur la base des accords existants et à travers des négociations serait la meilleure garantie de la sécurité d'Israël et de l'acceptation d'Israël comme un partenaire égal dans la région. Donc, l'Union européenne reconnaît officiellement le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Ceci, évidemment, dans le cadre d'un processus négocié et pacifique. Netanyahou condamne la déclaration européenne et fait mention immédiatement de la Shoah. Je cite « Il est particulièrement attristant que l'Europe, où un tiers des Juifs ont péri, juge approprié d'essayer d'imposer à Israël une solution dangereuse qui compromet ses intérêts. Un tel État pourrait lever une immense armée, se doter d'armes sans aucune restriction, former des alliances avec des régimes préconisent la destruction d'Israël et créer les conditions d'un terrorisme accru contre Israël dont l'existence serait ainsi mise en péril. La diplomatie palestinienne triomphe. Il n'est plus question de discuter du principe de la création d'un État palestinien, mais seulement de sa date. Et nous sommes maintenant à la fin de la campagne électorale israélienne. L'affaire Aryeh Deri, qui traîne depuis des mois en Israël, donc l'ancien chef du Ch'ass est reconnu coupable par le tribunal de Jérusalem de fraude, corruption et d'abus de confiance et condamné à 4 ans de prison. Mais il fait appel. Ceci entrave, pose la question de l'attitude du Ch'ass dans un futur gouvernement de coalition, puisqu'aussi bien que la droite comme la gauche lui demandent d'entrer dans une coalition. Le rabbin Avadia Yosef, le chef spirituel du Ch'ass, parle de la haine de la religion qu'éprouveraient les juges. Pour les militants, les hommes politiques d'origine ashkénaze ont fait bien pire et n'ont jamais été condamnés. Donc l'affaire ravive les clivages internes religieux laïcs, séfarades ashkénazes en Israël. Mais ces attaques contre les élites libérales d'origine européenne trouvent aussi un large écho dans les classes populaires qui ne bénéficient en rien de la libéralisation croissante de l'économie. Jadis, la société israélienne était l'une des plus égalitaires du monde développé. Après plus de 20 ans de démantèlement de l'économie dirigée des pères fondateurs, les écarts sociaux s'agrandissent inexorablement. La gauche israélienne est à la fois identifiée aux immigrants européens et aux bénéficiaires de l'ouverture vers la mondialisation. Elle est incapable de répondre aux besoins des juifs dits orientaux en plein repli identitaire. L'arrivée massive des immigrants dits russes renforce la division de la société en ethnoclasses, définie à la fois par une commune origine, un même rapport à la religion et un même statut social et économique. Ça, c'est très intéressant en sociologie. Ce sont les sociologues israéliens qui ont inventé le concept d'ethnoclasse, renvoyant à la fois un statut social et économique, une identification religieuse et une certaine forme de vie communautaire. Et aujourd'hui, beaucoup de sociologues européens reprennent cette notion d'ethnoclasse pour les sociétés européenne actuelle. Mais dans les années 90, c'était essentiellement la sociologie israélienne qui utilisait le concept d'ethnoclasse. Comme partout ailleurs, le progressisme tend plus à s'identifier aux valeurs dites sociétales plutôt qu'à des mesures sociales. Tel Aviv devient ainsi la ville des gagnants de la mondialisation, pour qui la liberté économique va de pair avec celle des mœurs, alors que l'affirmation religieuse se renforce dans une bonne part des classes populaires. Les Russes sont à la fois des libéraux en économie, d'inspiration le plus souvent laïque, et des ultranationalistes. Ils rejoignent ainsi les religieux dans la question du processus de paix, tout en s'opposant à eux dans les questions de société. Quand on évoque les mesures sociales à prendre, on évite soigneusement de marquer que les multiples mesures d'incitation à la colonisation des territoires occupés accaparent une bonne part des ressources disponibles. Les aides sociales bénéficient surtout aux milieux religieux, aux familles qui ont des familles très nombreuses et qui sont très largement à l'extérieur des activités productives. Les trois principales forces politiques maintiennent leur préférence pour le libéralisme économique. La gauche et le centre affirment s'inspirer de la troisième voie de Tony Blair et du pragmatisme de Bill Clinton. La tension internationale est maintenant concentrée par la guerre du Kosovo qui commence le 24 mars 1999 avec l'afflux massif des réfugiés kosovars. L'OTAN est destinée à mener une guerre aérienne contre la Serbie jusqu'à ce qu'elle cède. C'est une opération menée en dehors de l'ONU sur la thématique de porter secours à des populations en danger de mort et qui reprend le discours de la guerre juste. La rhétorique retrouve là encore la référence à la Seconde Guerre mondiale et à la destruction des Juifs d'Europe. Cette guerre au motif humanitaire brouille les repères habituels. Les anti-impérialistes ont du mal à ne pas voir des motivations matérielles cachées et vont jusqu'à prendre la défense des Serbes. Je me rappelle des extrêmes gauches françaises à l'époque expliquant de façon très grave que l'OTAN bombardait la Serbie pour pouvoir s'emparer du pétrole de la Caspienne. Je peux vous garantir que ça n'avait strictement aucun sens. À l'époque, j'avais participé à une mission d'études sur le pétrole de la Caspienne et nous avions déposé notre rapport à la fin de l'année 1999 en disant, vu que le prix du pétrole est de 15 dollars le baril, le pétrole de la Caspienne n'a aucun avenir. Évidemment, le jour où on a déposé le rapport, le prix du baril de pétrole a commencé à monter à 20 dollars. Et il entrait dans une phase d'expansion continue, atteignant 100 dollars quelques années après. Donc, essayer de faire de la prévision dans ces conditions. Enfin, j'ai signé le document. Donc, j'en étais où ? Voilà. Donc, les anti-impérialistes prennent la défense des Serbes, puisque c'est l'OTAN qui bombarde. Au Proche-Orient, le fait que les États-Unis protègent la population essentiellement musulmane des Albanais gêne les courants islamistes qui ne peuvent cette fois invoquer la guerre supposée des Américains contre l'islam. Les chrétiens orthodoxes, eux, se solidarisent avec leurs coreligionnaires serbes. Arafat est particulièrement frappé par le fait qu'il a fallu que les Albanais prennent les armes et soient soumis à une impitoyable répression pour qu'une intervention internationale soit décidée. Il se met à penser à un éventuel nouveau soulèvement palestinien qui permettrait de mettre fin aux impasses du processus de paix. Des consignes dans ce sens sont données aux organisations dépendant du Fatah. Ça, c'est le seul cas où nous avons sur une source palestinienne avérée, puisqu'il s'agit des mémoires du chargé de presse d'Arafat, Marwan Kadhafani, qui dit bien que Arafat, au moment du Kosovo, a pensé à une reprise de l'intifada armée pour provoquer une action internationale sur le mode du Kosovo. Mais c'est la seule indication que nous ayons de sources palestiniennes avérées sur une préparation d'une seconde intifada. Nous y reviendrons dans la suite. Israël se doit de faire des gestes de relations publiques en envoyant de l'aide humanitaire en Albanie pour aider les réfugiés. On accueille en grande pompe quelques familles juives venues de l'ex-Yougoslavie, rappelant ainsi que l'État hébreu est le lieu de refuge des Juifs dans le monde. En même temps, on ne veut pas trop s'aliéner la Russie, tout en ne prenant pas de distance avec les Américains. Tout en se solidarisant publiquement avec l'entreprise humanitaire occidentale, certains responsables israéliens dont Ariel Sharon s'inquiètent du risque de voir créer un précédent où une minorité ethnique se trouve libérée par une intervention extérieure. Ils songent évidemment aux Arabes israéliens ou à un règlement imposé de l'extérieur de la question de Palestine. Sharon ajoute que la constitution d'un État musulman en Europe pourrait ensuite servir de base à l'extrémisme islamique dans cette région du monde. Ces prises de position valent au ministre israélien des Affaires étrangères un rappel à l'ordre de la part de l'administration Clinton et en preuve de bonne volonté, l'État hébreu accueille temporairement une centaine de réfugiés musulmans kosovars. Dans les populations, le sort des Albanais du Kosovo rappelle pour les Israéliens la destruction des Juifs d'Europe, pour les Palestiniens, l'exode de 1948. Comme à chaque grande crise, la mémoire des catastrophes du passé structure et donne sens aux événements en cours. Le Hamas organise une manifestation de solidarité avec les musulmans du Kosovo. On y brûle les drapeaux yougoslaves, mais on dénonce aussi les États-Unis qui n'agissent pas en faveur des musulmans, mais seulement pour démontrer leur force en tant que superpuissance et affaiblir la Serbie qui résiste à leur impérialisme. On peut dire que c'est un état net de confusion mentale. La presse de beaucoup de pays arabes adopte des positions similaires. Après le Kosovo, cela pourrait être le tour du Sud-Soudan ou du Kurdistan d'Irak. Finalement, 33 partis sont en compétition pour les élections israéliennes. Jamais la fragmentation politique n'a été aussi grande. Elle est à la fois le produit du système électoral à la proportionnelle qui favorise la représentation des intérêts particuliers et de l'extraordinaire diversité de la société israélienne avec sa tendance à se composer en ethnoclasses. Il en est de même pour les Arabes israéliens qui votent de moins en moins pour les partis sionistes du fait de l'affaiblissement des relations clientélistes. Les forces politiques islamistes progressent, mais la tension est surtout concentrée sur le parti de gauche Balad. Non, je ne l'ai pas. Dont le brillant leader Azmi Bechara conteste l'identité juive de l'État et appelle à un État de tous les citoyens. Il fait grand scandale en posant sa candidature à l'élection directe à la fonction de Premier ministre, ce qui est totalement identifié avec l'identité juive de l'État. Les soutiens du processus de paix à l'intérieur comme à l'extérieur l'accusent de créer une dangereuse diversion et de, en divisant les votes, favoriser ainsi la candidature de Netanyahou. L'intéressé accuse Arafat de s'immiscer dans la campagne électorale, demandant à Bechara de se retirer au profit de Barak. Bechara accuse Netanyahou de faire de la démagogie, il répond que personne ne lui a demandé de se retirer, et qu'en tout état de cause, il ne risquerait pas d'enlever des voix à Ehud Barak, et il avait peu de chances de dépasser le premier tour. Dans la ville arabe de Nazareth, le mouvement islamiste veut imposer l'édification d'une mosquée à proximité de la basilique de l'Annonciation. Les églises chrétiennes protestent vigoureusement. Les islamistes affirment que le site choisi appartenait jadis à un bien waqf, de main morte musulmane, et que les voyageurs du XIXe siècle rapportent l'existence à cet emplacement d'un petit édifice religieux musulman. La tension devient confessionnelle. Les islamistes identifiant les opposants chrétiens aux Serbes. Le conseil municipal est majoritairement musulman, mais le maire de la ville est chrétien orthodoxe et communiste. La ville a perdu sa majorité chrétienne du fait de sa démographie et de l'immigration, mais les chrétiens ont une position sociale et économique supérieure due aux héritages et à une meilleure éducation. Des heurts assez violents se produisent dans les premiers jours d'avril 1999. Les chrétiens accusent les islamistes d'être soutenus par le gouvernement sortant afin de diviser les votes arabes, voire d'en acquérir quelques voix. L'OLP adjure les partis à dialoguer pour pouvoir préserver l'unité nationale. Le Vatican prend la défense des intérêts chrétiens, parle de provocations venues des milieux musulmans et exige que l'État hébreu prenne ses responsabilités. On évoque la possibilité de fermer la basilique lors des grandes fêtes religieuses prévues pour l'an 2000, ce qui pourrait affecter le considérable tourisme religieux attendu pour l'avènement du millénaire. Lors des élections de 1996, Netanyahou avait bénéficié des financements venus des juifs de la diaspora, en particulier américains, orientés sur des positions très à droite. Il avait utilisé des experts américains en communication et en propagande électorale, alors que Clinton avait apporté un soutien ostensible à Pérez. Cette fois, le président américain ne répète pas la même erreur. Tout en étant persuadé de la nécessité d'une défaite de Netanyahou pour une reprise du processus de paix, il se tient publiquement en dehors de la compétition. En revanche, le Parti démocrate américain organise le financement de la campagne électorale de Barack en mobilisant ses sources habituelles de financement dans la communauté juive américaine, et le parti fournit aussi des spécialistes en matière électorale qui avait participé à la réélection de Clinton en 1996. En dépit des différences essentielles en matière d'organisation constitutionnelle, la vie politique israélienne achève de s'américaniser tout aussi bien dans les styles utilisés que dans les financements. Le discours des trois grandes forces politiques en ce qui concerne le processus de paix est assez similaire. Pas de division de Jérusalem, pas de retour en ligne du 4 juin 67, pas d'armée étrangère à l'ouest du Jourdain, pas de démantèlement des grands blocs de colonies, pas de droit au retour des réfugiés palestiniens. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité. Celle de Netanyahou est faible, celle de Barak est à mettre à l'épreuve. Il n'est pas possible de tenir plus de candidats que ces vagues principes. Il n'est pas question de divulguer les véritables positions avant le début des négociations. Lors du premier débat de la campagne, Mordechai l'emporte largement sur Netanyahou, accusé d'être un menteur et de manquer d'honnêteté et d'intégrité. Le 23 avril, le gouvernement israélien décide la fermeture de plusieurs institutions palestiniennes de Jérusalem, officiellement des centres de recherche installés à Orient House. Les Palestiniens et l'opposition israélienne parlent de mesures électoralistes. Les États-Unis demandent au parti d'éviter des actions qui compliqueraient encore plus une question déjà explosive. Ils fixent un délai d'un an pour aboutir, grâce à des négociations intensives, à un règlement définitif. Netanyahou reprend ses menaces en cas de proclamation d'un État palestinien. Après avoir multiplié les consultations internationales, Arafat se tourne vers son opinion publique intérieure. Il propose même au cher Yassine de participer au débat du comité central de l'OLP. Le 26 avril, Clinton adresse à Arafat une lettre récapitulant les positions américaines. Il reconnaît les difficultés actuelles et le fait que les Palestiniens ont respecté les obligations acceptées à White River, en particulier en matière de sécurité. Il lui demande de continuer de compter sur le processus de paix pour réaliser les aspirations de son peuple. Les négociations sont la seule voie réaliste pour réaliser ces aspirations. Dans ce contexte et dans l'esprit de ses déclarations à Gaza, les États-Unis soutiennent les aspirations du peuple palestinien à déterminer son propre futur sur sa propre terre. C'est les plus proches que les Palestiniens peuvent espérer obtenir une sorte de déclaration Balfour. Encore une fois, les déclarations de droit à l'autodétermination, de souveraineté et de définition territoriale ont été évitées. En Israël, on se rassure du fait que la déclaration ne comprend pas l'énoncé de mesures concrètes. Le 29 avril, le comité central de l'ONP décide de reporter la déclaration d'indépendance. La délégation du Hamas, conduite par le cher Yassine, donne son approbation tout en continuant à plaider pour la lutte armée, ce qui provoque un certain émoi au sein du mouvement. On accuse le cher Yassine de collusion avec Arafat dans le but de maintenir l'infrastructure civile du mouvement. La direction à l'étranger désavoue cette prise de position, mais le cher la justifie par une analyse politique. Il n'y a pas de différence réelle entre la droite et la gauche israélienne. Leurs mains sont toutes couvertes de sang palestinien. Voilà évidemment la reprise de l'expression israélienne, avoir les mains couvertes de sang juif. La tendance générale de l'électorat israélien va vers la droite et l'extrémisme. Même si Barak l'emporte, il ne sera pas capable de faire avancer le processus de paix. Les nombreux partis de droite lui rendront difficile de former un gouvernement et imposeront des limites à son action. Netanyahou a dit aux Israéliens que c'était lui qui leur avait apporté la sécurité et empêché les attaques suicides et que lui, contrairement au parti travailliste, ne fera pas de concessions. Son opinion est que ni Barak ni Netanyahou ne feront de concessions aux Palestiniens. Si lui, le cher Yassine, est allé à la rencontre, c'est pour rappeler à ses interlocuteurs la vanité des accords d'Oslo et du processus de paix. Ça, c'est la force de l'argumentaire du Hamas. Oslo ne conduit à rien. C'est un piège. L'enjeu immédiat entre intérieur et extérieur est de savoir si le Hamas lancera des opérations pour influer sur les élections israéliennes. Finalement, la trêve de fête est maintenue. Les pressions de l'autorité palestinienne sont fortes et les capacités d'agir paraissent faibles. En revanche, au Liban Sud, le Hezbollah n'a pas ses scrupules. La résistance islamique intensifie ses actions et les Israéliens lancent des opérations de représailles. Chacun peut se montrer ainsi ferme dans ses principes. Netanyahou se vante d'avoir obtenu le report de la proclamation de l'État palestinien, mais Barak souligne l'importance des gains politiques d'Arafat sur la scène internationale. Il est devenu l'enfant chéri des Américains. Dans les territoires, la décision est reçue avec une certaine indifférence, mais les observateurs marquent que c'est l'expression d'un certain désenchantement même profond désenchantement envers le processus de paix et envers la gestion de l'autorité palestinienne. La campagne électorale israélienne bat maintenant son plein avec l'usage systématique des publicités négatives. Les sondages donnent Netanyahou et Barak à égalité au premier tour avec chacun 37% des voix, tandis que Mordechai est très nettement distancé. Barak apparaît largement gagnant au second tour. Certes, le Chas apporte son soutien à Netanyahou, mais les déclarations de Derry assimilant son procès à celui de Dreyfus et la couverture médiatique reçue à celle du procès Eichmann choquent une bonne part de l'opinion publique. Netanyahou n'arrive pas à recréer une dynamique en sa faveur en mettant sur le même pied Arafat et Barak. Il lui est difficile de jouer cette fois sur la peur, car ce serait reconnaître l'échec de sa politique gouvernementale. Les ambiguïtés de sa politique se retournent contre lui. Veut-il poursuivre le processus de paix ou le saboter ? Dans le premier cas, ses compétiteurs semblent mieux placés. Dans le second, on préfère un opposant déterminé. Enfin, il n'est plus un homme nouveau, contrairement aux élections précédentes, et il a déçu bien du monde. La situation économique s'est détériorée. Les dissensions sont patentes à l'intérieur de son électorat. Le Chas s'en prend violemment aux Russes, accusés de ne pas être des vrais juifs et d'avoir des mœurs dissolues. Et les intéressés répondent en affirmant leur sécularisme. Pourtant, les uns et les autres sont des partisans proclamés de la colonisation de la Cisjordanie. Les cadres du Likoud accusent leur chef de ne s'intéresser qu'aux élections à la fonction de Premier ministre et de négliger celle des députés. Le maire de Jérusalem, Ehud Olmert, prend ses distances et refuse de soutenir le discours selon lequel Barak serait prêt à accepter une division de la ville sainte. Netanyahou tente de relancer le dossier en menaçant de fermer la maison de l'Orient, Orient House, ce qui provoque une forte tension dans la partie arabe de la ville. Les Américains tentent de trouver un compromis. Finalement, un recours à la Cour suprême israélienne permet de renvoyer l'affaire après les élections. Barak utilise son statut de soldat le plus décoré de l'histoire de l'armée israélienne. Il se pose en nouveau rabbin capable d'assurer la paix et la sécurité. Il affirme quatre principes pour le règlement final. Premièrement, Jérusalem doit rester pour toujours une cité unie sous notre souveraineté. Deuxièmement, il est totalement exclu de faire revenir des réfugiés dans les frontières de 1967. Troisièmement, il ne peut y avoir de forces armées palestiniennes à l'ouest du Jourdain. Et quatrièmement, la plupart des implantations de Judée et de Samarie doivent rester dans nos mains. Le fait qu'il utilise l'expression Judée-Samarie montre combien il est proche des positions de la droite. Il accuse à juste titre son adversaire de vouloir jouer sur les antagonismes internes de la société israélienne, séfarade contre Ashkenaz, juif religieux contre israélien. Du côté séfarade, Barak s'appuie sur David Levy. De façon plus générale, il se pose en défenseur de l'Union nationale et accuse Netanyahou de chercher à fomenter la guerre civile à l'intérieur de la société israélienne. Alors, je vous laisse en pleine angoisse pour savoir qui va remporter ces élections. Vous devrez attendre encore une semaine. C'est dur, mais c'est la loi des feuilletons.